J'avais dit que j'allais m'appuyer sur la mission qui m'a été confiée sur la discrimination dans l'accès à l'emploi public. Alors, pourquoi c'est intéressant dans le domaine des discriminations et pourquoi ça intéresse les économistes, cette thématique particulière? Bien sûr, il y a un premier aspect, c'est que, a priori, on ne parle pas ou peu des discriminations dans l'accès à l'emploi public. En France, depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a eu un grand nombre de travaux qui portent uniquement sur l'emploi privé. Et donc, l'emploi public est comme une terre non explorée par les chercheurs dans ce domaine-là. Donc, on se dit que ça peut être intéressant d'y aller, puisqu'on n'a pas de travaux dans cette direction, en tout cas en France. Il y a un peu de travaux dans d'autres pays. Mais on voit immédiatement que ça va être particulièrement difficile de mettre en évidence une discrimination dans l'accès à l'emploi public. Déjà, c'est très difficile pour l'emploi privé. Pourquoi c'est très difficile? Parce qu'on se dit qu'il faut observer tout le processus sélectif et voir les candidats à chacune des étapes. Par exemple, des candidats pour une offre d'emploi. Alors, on aimerait avoir des statistiques, on aimerait en tout cas des informations fines sur les caractéristiques des candidats à une offre d'emploi. Et puis après, les caractéristiques des candidats qui ont effectivement passé la barre et qui ont été retenus. Mais même si on avait toutes les statistiques possibles, ça ne prouve pas qu'il y a une différence de traitement entre deux candidats dont les caractéristiques productives seraient strictement identiques. Parce qu'en fait, si on observe le monde réel, on n'a jamais deux candidats qui ont des caractéristiques strictement identiques, sauf une. En général, on est différent sur beaucoup d'aspects. Et si on a des bases de données de candidature, même des bases de données très très importantes, on voit qu'il y a tous les candidats sont fondamentalement différents. La nature ne fabrique pas spontanément des clones qui seraient semblables en tout point, sauf sur leur sexe par exemple, ou sur leur origine. Même avec des données parfaites, on ne peut pas administrer la preuve de l'existence d'une discrimination. C'est pour ça qu'on utilise une technologie détournée qui va être de fabriquer de toutes pièces des profils, on dit des CV, avec des lettres de motivation, et on va envoyer ces CV virtuels, qui sont effectivement semblables en tout point, sauf sur la caractéristique qui nous intéresse, en réponse à une vraie offre d'emploi. Puis on va répéter suffisamment de fois l'expérience, il s'agit bien d'une expérience contrôlée, on est dans le cadre d'une économie complètement expérimentale, même si on est dans le monde réel, on a fabriqué une expérience et on va envoyer nos faux CV et on va répliquer l'expérience un certain nombre de fois pour pouvoir constituer des bases de données pour établir la preuve d'une différence de traitement. Voilà comment est-ce qu'on fait pour l'emploi privé. Donc on voit que c'est déjà très compliqué, c'est très lourd, et donc on va pouvoir produire des résultats au prix d'une logistique assez importante. Et puis la preuve qu'on va pouvoir établir, ça va être une preuve localisée, partielle et ponctuelle. Donc une preuve de peu de portée. La qualité de la donnée est excellente, mais son champ d'application, de validité est très restreint. Dans l'emploi public, c'est beaucoup plus intéressant, enfin c'est intéressant au sens où ça va être beaucoup plus dur encore. Ainsi, les économistes ont un côté un peu alpiniste. Ils aiment bien gravir des sommets de plus en plus élevés. Donc là où c'est dur, ça nous intéresse a priori parce qu'on va pouvoir montrer qu'on est fort en quelque sorte. Et donc pour l'emploi public, c'est un autre Everest dans le domaine des discriminations. Ça paraît totalement impossible d'utiliser le testing dans l'emploi public parce qu'on se dit l'emploi public c'est du concours. Et donc un recrutement par concours, c'est un ensemble d'étapes sélectives effectivement, mais qui s'inscrivent dans la durée. Et il est hors de question d'envoyer des personnages fictifs à toutes les étapes du concours, de fabriquer des fausses identités à toutes les étapes du concours, sauf à prendre un risque de sanctions pénales relativement fortes. Évidemment, ce n'est pas l'objet. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à des détours dans les détours pour pouvoir appliquer ces technologies dans le domaine de l'accès à l'emploi public. C'est ce qu'on a fait suite à une commande du Premier ministre dans le cadre d'une lettre de mission du 23 juin 2015 qui elle-même faisait suite à un comité interministériel égalité-citoyenneté de mars 2015 dans lequel il a été décidé de lancer des travaux d'évaluation à la fois sur le privé et sur le public pour repousser un peu les frontières de nos connaissances en matière de présence du risque discriminatoire. Donc c'était la première première fois qu'on lançait une mission dans le domaine de l'emploi public. Alors la mission est très partielle parce qu'elle ne couvre que l'accès à l'emploi, mais en même temps elle est très complète parce que ça porte sur tous les voies de recrutement, concours, recrutement sans concours, voies contractuelles, dans les trois versants de la fonction publique. Et on s'est concentré sur un petit nombre de motifs, hein, le sexe, l'origine, le lieu de résidence, la situation de famille. On n'a pas pu couvrir les 21 motifs que j'évoquais tout à l'heure. Et je me suis passé sur tous les aspects, mais cette mission, elle s'est appuyée essentiellement donc sur des entretiens avec des recruteurs publics. Hein. J'ai rencontré plus de 60 grands recruteurs publics, hein, notamment tous les grands ministères de la fonction publique d'État, donc toutes les directions des ressources humaines, tous les ministères de la fonction publique d'État, pour bien comprendre comment s'effectuaient les recrutements dans au ministère de la Culture, à la Cour des Comptes, au ministère de l'Agriculture, et puis également dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique territoriale. Et puis, on a lancé aussi des travaux de recherche parallèles avec deux grandes technologies. D'une part, l'analyse des données de concours. Est-ce qu'on peut utiliser les bases de données de concours à des fins d'administration de la preuve et à des fins d'évaluation? Donc ça, j'en dirai un mot après la discussion. Et également, on a mené à bien des tests de discrimination avec deux types de tests. Des tests d'accès à l'information en envoyant de simples requêtes sous forme de courriel à des commissariats ou à des hôpitaux en disant « bonjour, je vous écris aujourd'hui afin d'obtenir des renseignements sur les opportunités d'emploi dans la police. En effet, je serai diplômé en juin 2016 du baccalauréat économique et social. » On a pensé, bien sûr, au professeur de SES dans la conception même du piège. « Et je suis très intéressé par le métier d'adjoint de sécurité. Et où puis-je trouver les informations nécessaires à ma candidature et à qui dois-je l'envoyer ?» On a envoyé ce type de message à plus de 70 commissariats en déclinant ce message pour deux identités, par exemple Thomas Martin et Laure Bernard, ou bien Thomas Martin et Mehdi Haddad. Enfin, on regarde discrimination selon le sexe d'une part et selon l'origine révélée par le patronyme. On a fait pareil pour des postes d'infirmiers. On a contacté plus de 150 hôpitaux pour savoir si on pouvait, comment devenir infirmier, comment déposer une candidature. Je suis diplômé de telle école, je veux déposer une candidature, comment faire? Puis après, on a constitué des bases de données avec simplement les réponses des structures. Ça, c'est un test d'accès à l'information. C'est très simple à réaliser. On peut le faire en grand format et on peut piéger avec cette approche n'importe quelle autorité publique qui donne l'accès à telle ou telle ressource, hein, notamment des écoles. On l'a fait aussi sur des lycées. On peut le faire dans des domaines extrêmement variés et ça va se développer. Et puis on a fait aussi des tests d'accès à l'emploi. Donc, ces tests d'accès à l'information montrent qu'il y a des différences statistiquement significatives de traitement entre le candidat d'origine franco-française et celui qui évoque par son patronyme une origine, disons, arabo-musulmane. Et dans l'accès à l'emploi à l'hôpital, par contre, on n'a pas trouvé de différences significatives dans la police. Peut-être parce qu'on a testé que 70 structures et si on avait testé 130, on aurait trouvé des différences. Et on a fait aussi donc des tests d'accès à l'emploi en testant différents profils. Et là, on a envoyé plus de 3000 candidatures en répondant à 1086 offres, hein, entre octobre 2015 et avril 2016. Donc, si vous êtes intéressé par le détail des résultats, je vous invite à consulter les rapports de recherche et puis le rapport lui-même qui est public. Hein. Mais en gros, on n'a pas réussi à trouver des différences dans la fonction publique d'État entre nos différents profils. Par contre, alors ce qu'on contestait, c'était l'origine révélée par le patronyme et le lieu de résidence. J'habite un quartier en fait qui évoque qu'un quartier défavorisé, hein, et je compare un quartier défavorisé avec un quartier intermédiaire. On n'a pas trouvé de différence de traitement dans la fonction publique d'État. Par contre, on a trouvé d'importantes différences dans la fonction publique hospitalière, et ça nous a beaucoup surpris, ça a surpris beaucoup d'observateurs et d'acteurs, et dans la fonction publique territoriale, de façon assez massive, et on a trouvé donc des écarts de traitement dans la fonction publique territoriale qui sont parfois supérieurs à ce qu'on trouve dans l'emploi privé. Puis en fait, on a conçu d'ailleurs ces tests en comparant systématiquement le privé et le public, et on a plein de résultats dans lesquels la fonction publique territoriale discrimine davantage que l'emploi public. Donc on arrive à la conclusion que si la question c'est est-ce que le recrutement par voie de concours est suffisant pour se prémunir contre tout biais discriminatoire, la réponse est clairement non. D'abord parce que le concours occupe une toute petite portion en fait de l'ensemble des entrées, de l'ensemble des recrutements dans le public, et même le concours lui-même ne prémunit pas complètement de tout risque discriminatoire. Il y a de nombreux concours en fait qui donnent simplement la sélection sur une liste d'aptitudes. Après, les candidats doivent chercher un emploi, et c'est justement ce qu'on a utilisé pour administrer la preuve, et on a montré qu'effectivement, par exemple pour les infirmiers ou pour des fonctionnaires territoriaux, on avait des discriminations possibles dans l'accès à l'emploi, même s'ils avaient réussi l'un et l'autre le concours. Et puis, est-ce que le public fait-il toujours mieux que le privé en matière de prévention du risque discriminatoire? La réponse est non. On a donc construit beaucoup beaucoup de nos résultats indiquent que le public ne fait pas systématiquement mieux que le privé. On peut trouver dans l'emploi public des espaces qui font dans lesquels il y a potentiellement autant ou même davantage de discrimination que dans l'emploi public. Évidemment, ces conclusions appellent des réformes importantes du point de vue même des recrutements dans le public, des réformes des concours, des réformes du recrutement sans concours, et ce, dans tous les versants de l'emploi public. Je vous remercie.